Donc, comme je vous l'ai dit hier soir, nous avons commencé d'aborder l'eschatologie dans l'épître de Pierre. Et on va insister un petit peu ce soir sur le premier thème qu'il aborde dans ses épîtres. C'est le thème de la souffrance, des tribulations, des persécutions, et en même temps de l'espérance chrétienne qui est la nôtre. Parce que nous le savons, ces épîtres ont été écrites dans un contexte très particulier. L'Église, de façon générale, était persécutée, et donc les Églises vivaient des moments très difficiles. Et d'ailleurs, c'est... comment vous dire ? Hier, je vous ai parlé du fait que la vie chrétienne, c'était méditer sur ce qui s'était passé en Christ. C'est de méditer aussi sur ce que nous vivons aujourd'hui avec Christ, et aussi c'est de méditer sur ce qui nous attend dans le futur, l'espérance qui est la nôtre. Mais s'agissant de la souffrance, des persécutions, de l'injustice, de tout ce que nous pouvons traverser dans le temps présent, il est important de... comment vous dire ça ? Alors que nous marchons en nouveauté de vie, de ne pas s'inscrire forcément uniquement dans le présent. C'est-à-dire que notre vie ne se réduit pas à ce que l'on vit à un instant T. À un instant T, on est peut-être en train de tomber, d'échouer, de pécher. À un instant T, on est peut-être rempli du Saint-Esprit, et c'est glorieux. Mais notre existence, en fait, doit être vue autant que faire se peut, selon une grande image, selon une perspective divine. Et il est bon aussi d'avoir le regard de Dieu sur notre existence au travers de ce que Christ a fait. Comment le Père nous voit au travers de Jésus-Christ. Alors évidemment, c'est un mystère. On se dit comment c'est possible que Dieu puisse être avec nous et en même temps, il est contre le péché. Mais c'est là où on voit que le mystère de la Trinité à la fois est incompréhensible, c'est-à-dire le concept de la Trinité ne s'explique pas. C'est une révélation qui nous est donnée dans les Écritures, on le croit par la foi, mais ça s'invente pas. C'est pas logique, la Trinité. Mais en même temps, là où ça devient logique, c'est quand on l'inscrit dans les doctrines chrétiennes de façon générale. Je m'explique. Le Père, Dieu, le Père, nous voit parfait. Pourquoi ? Parce qu'il nous voit parfait au travers du sang de l'agneau et la purification de nos péchés. Et c'est pour ça que Dieu, au travers du Père, est toujours pour nous. Il nous accueille. Nous avons le Fils qui intercède pour nous. Justement, lui présente le sang. Donc il est notre avocat auprès du Père. Mais s'agissant de notre péché, s'agissant de notre marche chrétienne, s'agissant des dons que nous pouvons avoir, c'est le ministère du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous convainc, le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit peut être éteint, le Saint-Esprit peut nous parler, le Saint-Esprit nous donne des dons. Et donc tout ce qui concerne la relation avec Dieu aujourd'hui dans le temps présent, c'est au travers du ministère du Saint-Esprit. Et donc, c'est pour ça qu'au sein de la Trinité, vous pouvez à la fois avoir l'assurance que Dieu est avec vous au travers de Jésus-Christ, et en même temps, il va vous châtier comme un père châtie son enfant, et lorsqu'il a envie de taper du poing sur la table, il va le faire aussi au travers du ministère du Saint-Esprit. Et c'est cette unité au sein de la Trinité, ce un Dieu au milieu des... un Dieu en trois personnes, que nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Et c'est le Saint-Esprit qui, dans le temps présent, au travers de la parole d'ailleurs qu'il a inspirée auprès de l'apôtre Pierre, par exemple, c'est le Saint-Esprit aussi qui va nous encourager, qui va se réjouir de la perspective future que l'on ne voit pas. On n'a jamais été, on n'est jamais ressuscité, on n'a jamais été au paradis, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait même pas ce que c'est qu'un monde sans le péché. Sans péché, c'est quand même extraordinaire de penser qu'un jour il y aura un monde sans péché. On n'a pas idée de ça. Mais le Saint-Esprit nous donne l'assurance. Et donc tout ce que nous pouvons vivre au travers de la troisième personne de la Trinité est non seulement une vie de sanctification, mais aussi une vie de révélation. Il nous révèle ce qui est invisible. Et c'est pour ça que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu, mais Dieu nous a révélé par l'Esprit, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et donc, la perspective eschatologique de notre existence, de l'existence de l'Église, du monde en général, ne peut s'inscrire et s'expérimenter que si nous sommes en communion avec Dieu au travers du Saint-Esprit. Je ne peux pas à la fois lutter contre le Saint-Esprit et recevoir du Saint-Esprit cette attente réjouissante et cette perspective céleste. Et donc tout se tient, si vous voulez, dans notre marche avec Dieu. Et donc ce que Pierre voudrait nous communiquer là au travers de ses enseignements, c'est qu'à un instant T, on peut expérimenter de la souffrance, et cette souffrance est palpable. Ça peut être, elle peut être physique, elle peut être morale, spirituelle, ça touche l'âme, donc il peut y avoir des larmes, c'est quelque chose de concret, c'est pas bien entendu que ça s'appelle de la souffrance. Mais en même temps, le Saint-Esprit, lui, va nous consoler. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le consolateur, mais il nous console comment? Alors il peut nous consoler dans nos émotions, ça peut arriver. Nos émotions sont en berne et puis à un moment donné, ça va mieux. Mais il nous console aussi au travers d'une révélation de notre futur. Et le futur qui nous attend est une source de consolation. Vous voyez là, c'est une attente. Imaginons que, je sais pas, moi il y a une somme d'argent qui m'attend pour X raison. Si aujourd'hui je suis même obligé de quitter mon appartement, que je suis réduit à rien, même peut-être j'ai pas de toit, il pleut, je suis dans la rue, mais je sais que dans 15 jours je vais recevoir 15 millions d'euros de façon sûre et certaine. La situation est difficile. Je suis dans la rue, je suis mouillé, j'ai froid, je dois mendier, je dois subir peut-être les sobriquets des uns et des autres, je suis rejeté, je peux commencer à sentir mauvais, je suis sale, je me sens en danger, je suis pas protégé, je suis dans la rue. Mais de savoir que dans 15 jours ça va s'arrêter parce que je vais hériter d'une somme astronomique, ça m'aide à traverser quand même cette épreuve, alors que si je n'ai aucune perspective, je dis mais jusqu'à quand ça va durer ? Et donc le Saint-Esprit, lui, lorsque nous sommes en communion avec lui, va rendre palpable, présent, il va rendre l'avenir présent. Vous comprenez ? Et il va s'inscrire dans notre présent. Et ça, c'est extraordinaire et c'est glorieux. Et donc on va parcourir ensemble le texte, le début de la première épître de Pierre, donc au chapitre 1. Et donc du verset 1 au verset 12, si je peux vous donner un thème concernant ce péricope, c'est que la perspective du salut nous donne un espoir pour l'avenir. La perspective du salut nous donne un espoir pour l'avenir. Et quand je dis la perspective du salut, je m'inscris justement dans le futur, parce que vous allez me dire, mais attends, le salut, on l'a déjà. Oui et non. Oui, parce que nous sommes entièrement sauvés, mais non parce que on ne vit pas pleinement le salut. Par exemple, nous n'avons pas encore glorifié. Le corps glorifié, la vie de résurrection que nous attend, ça fait partie du salut. Et du coup, on a reçu une partie des bénédictions du salut, mais il y a encore d'autres bénédictions à venir. Donc le salut, c'est le passé, le présent et l'avenir. Et donc cette perspective du salut nous donne cette espérance. Lisons ensemble quelques versets. Donc ça commence au chapitre 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ. « À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, » on en avait parlé notamment dans un temps de questions-réponses, donc élus selon la prescience de Dieu le Père, ça veut dire que la perspective du salut, cette s'inscrivait déjà dans le passé, avant même notre naissance. Ensuite, il continue, « Par la sanctification de l'Esprit, » ça fait partie du salut qui nous est offert, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne sanctifie que les gens sauvés. Et donc la sanctification présente que nous vivons aujourd'hui, même si parfois elle peut paraître difficile, elle fait partie du salut. Donc par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant. Vous voyez, c'est un objectif, la sanctification par l'Esprit. C'est de devenir obéissant à Dieu. C'est ce processus de son transformation. Et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc on voit là déjà dans le début de cette épître, qu'il y a un appel qui date de toute éternité, c'est l'appel de Dieu. Ensuite, il y a l'Esprit qui nous sanctifie, et ensuite il continue pour parler justement d'eschatologie. Et là, c'est le verset 3. « Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Vous voyez, et c'est là où on rentre dans une vision du futur. Qui dit espérance signifie que c'est pas dans le présent. J'espère pas ce que j'ai déjà. Je l'ai. L'espérance vivante, et j'aime ces deux mots qui sont juste à poser là, c'est une espérance vivante. Combien de chrétiens ont cette espérance, mais elle n'est pas vivante dans leur vie? C'est comme s'ils avaient une espérance morte. Ça peut être de l'intellectualisme, ça peut être du raisonnement, de l'incrédulité, la familiarité devant la révélation que nous avons reçue. Mais ce n'est pas vivant parce que, ça paraît évident de le dire, mais moi je ne peux être vivant que dans le présent. Je ne suis pas vivant dans le passé et je ne suis pas vivant dans l'avenir. Je serai vivant peut-être demain, mais je ne peux être vivant qu'aujourd'hui. Donc l'espérance, j'ai besoin de l'expérimenter aujourd'hui. Ça va être une espérance vivante. C'est pas une espérance morte. Et donc, il dit, il nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre. Rappelez-vous, on en a parlé dans le temps de questions-réponses. On parlait de la vanité de la vie. C'est que nous avons reçu un héritage qui ne peut se corrompre. C'est quelque chose d'éternel. Et quand il va parler ensuite de la souffrance, il y a un sous-entendu. La souffrance, elle, va s'arrêter. Nous, l'espérance vivante que nous avons, c'est lié à un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous voyez, cet héritage, c'est-à-dire que la ligne d'arrivée du salut, c'est la vie de résurrection, enfin la résurrection du corps et l'entrée dans la présence de Dieu et au paradis, et bien c'est là que nous allons vraiment expérimenter tout ce qui nous est réservé pour l'instant. Et quand moi je sais que quelque chose m'est réservé, que c'est à moi en fait, je l'ai pas encore mais c'est à moi. C'est un peu comme quand j'étais petit et qu'on me faisait croire au Père Noël. Et que, évidemment, en grandissant, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelque chose de bizarre avec le Père Noël. Et puis, on est un peu curieux et on s'aperçoit que les cadeaux qui sont sous le sapin, ils sont déjà dans l'armoire, 3 jours avant. D'accord ? Donc, évidemment, il n'y a plus l'effet de surprise. Mais il y a quand même une joie, il y a quand même une espérance vivante. Parce que vous voyez les cadeaux dans l'armoire, puis il y a marqué Michel, et puis voilà. Donc, voilà, les cadeaux sont là. Donc, c'est pas encore Noël. On aimerait être ce jour-là, tout comme on aimerait être nous au jour de la résurrection. Mais le fait que le cadeau soit là avec notre nom, ça permet d'attendre quand même beaucoup plus facilement. Mais est-ce que nous croyons que nous avons des cadeaux qui nous attendent au ciel de la même manière? C'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, c'est-à-dire... Il est au ciel, il va pas se corrompre. C'est pas parce que le temps passe que l'héritage diminue. Le jour où je me suis converti, il y a eu quelque chose qui m'attendait et c'est toujours là. Et il m'est réservé dans les cieux. Le verbe réservé, là, ça parle de, c'est pas simplement, je vous réserve le produit et puis le vendeur, il oublie un peu, presque, il va le vendre à quelqu'un d'autre, vous savez. Ça parle là de quelqu'un qui prend soin en disant, pas touche, il va aboyer si quelqu'un touche au produit. Vous voyez, il est réservé, mais en même temps, je m'en occupe, je le garde. C'est quelque chose qui est pour une personne en particulier, c'est pas pour les autres. Nous, notre héritage, c'est de cette manière-là qui nous est réservé. Il est gardé par Dieu, en fait. Et surtout, il est non seulement gardé par Dieu, mais il est gardé dans le même état. C'est-à-dire qu'il est gardé dans le même état. Là, on ne parle pas des récompenses du tribunal de Christ. On parle de la plénitude, le salut qui est pour toute l'humanité. C'est-à-dire régénération, résurrection des corps, entrée au paradis. Ça, c'est tous les croyants qui auront ça. Si vous voulez, cet héritage... Que je sois spirituel aujourd'hui ou pas, que j'ai des difficultés ou pas, que je souffre ou pas, que la vie soit pénible ou pas, que je subisse des tribulations ou pas, cet héritage, lui, ne change pas, ça ne dépend pas de ma vie chrétienne. Les récompenses seront en fonction de la vie chrétienne que j'aurai. Mais sinon, concernant, je dirais, les doctrines cardinales s'agissant du salut, ça ne change pas, ça m'a été donné, c'est acquis, c'est réservé, c'est pour moi. Et c'est pour ça quand il est dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit, c'est pour rendre visible devant les anges, les démons et les anges qui n'ont pas chuté, que nous appartenons à Dieu. Il y a un sceau sur notre vie, et ce sceau est à mettre en relation avec cet héritage qui nous attend. Il y a quelque chose là qui nous est réservé de la part de Dieu. Je dis ça parce que ça peut paraître évident pour certains, mais est-ce que vous ne pensez pas que pour Dieu c'est important, ce salut? Vous ne pensez pas que si Dieu a mis en place toute cette stratégie, s'il a envoyé son Fils et s'il nous a fait toutes ces promesses, c'est pour que lui aussi les oublie, non pas qu'il change d'avis, mais qu'il considère ça comme « oui, bon, c'est la vie chrétienne, c'est évident, oui, les chrétiens auront cet héritage ». Non, c'est quelque chose de précieux que Dieu nous a confié et nous a donné. Et est-ce que nous, on a le même regard, ce trésor? Et donc il continue en disant « lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu, donc c'est pas ma puissance, être gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps ». Les derniers temps, ça parle pas forcément de la fin du monde, ça parle dans les derniers temps avant que j'accède à cette plénitude. Pour certains, ce sera l'enlèvement, pour l'autre, c'est une mort avant l'enlèvement. Mais donc, dans les derniers temps, j'hérite de tout ça. Et une fois qu'il a dit, qu'il a mis en place tout le plan du salut, passé, présent, futur, il insiste un peu plus sur l'héritage futur, il commence à ensuite parler de ce que nous sommes peut-être en train de vivre. Et donc au verset 6, il dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. » Alors pourquoi il le faut? Parce que c'est dans la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui permet tout ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans ma vie, etc. « Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Vous ne trouvez pas que dans cette phrase, il y a quelque chose qui cloche? Je la relis. C'est là ce qui fait votre, je vais vous aider, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe là? Il y a la joie et il y a la tristesse. C'est-à-dire que dans les épreuves de la vie, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle avec des gens et qu'on les conseille, il ne faut pas manquer de miséricorde et de compassion. Il ne s'agit pas de dire « Ah, mais tu sais, ça passera, allez, pense qu'un jour tout va se terminer. En gros, c'est pas grave ce qui t'arrive comparé à ce qui t'attend dans l'éternité. » Non, il ne s'agit pas de conseiller les gens de cette manière-là. On est attristé. C'est une vérité. Mais le Saint-Esprit peut ajouter quelque chose qui peut paraître contradictoire, il peut ajouter de la joie. On peut être attristé et joyeux en même temps. Ce sont les deux niveaux de la vie chrétienne. Alors, je reviendrai un petit peu d'ailleurs sur une question qui a été posée, je crois, dimanche soir, où c'est toi, je crois, qui parlais de la verticalité, l'horizontalité, comment trouver l'équilibre, etc. C'était un autre sujet, mais je voudrais parler de ça de façon plus générale. C'est qu'il y a des sujets qui ne sont pas, qu'on ne peut pas appréhender sous la l'angle de la logique et du raisonnement. C'est impossible. La vie chrétienne, ça va au-delà de la connaissance du bien et du mal. On ne peut pas dire que des fois, sur certains sujets, il y a quelque chose qui est bien et quelque chose de moins bien, voire de mal. C'est ensemble. L'image que je pourrais donner, c'est un peu ma personne, ce que je suis. Qu'est-ce qui est le plus important? Je parle dans ce monde-là, la vie que nous avons actuellement. Qu'est-ce qui est le plus important, votre âme ou votre corps? On aurait tendance à dire l'âme est plus important parce que c'est le salut de mon âme qu'on va retrouver dans l'éternité. Ça, c'est vrai. Mais s'agissant de cette existence, pour pouvoir vivre en tant qu'être humain sur la terre, qu'est-ce qui est plus important, l'âme ou le corps? Les deux. Parce que si j'ai pas de corps, mon âme n'est pas véhiculée. Et si je n'ai pas d'âme, mon corps est inerte. C'est-à-dire qu'un être humain doit être à la fois immatériel et matériel. Et il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qui est mieux ou pas. Les deux sont indissociables. On ne peut pas dire qu'il y a un qui a la première place. C'est un être humain et les deux à la fois, pour être un être humain. Les anges, eux, n'ont pas de corps. Donc ils peuvent opérer en tant qu'esprit. Mais nous, on ne peut pas se déplacer en tant qu'esprit. On a besoin d'un corps pour se déplacer. Nous avons été conçus comme ça. Et donc je ne peux pas faire différence. C'est pareil au niveau de l'horizontalité, de la verticalité. J'ai besoin d'une horizontalité avec Dieu. C'est d'ailleurs, la régénération nécessite une verticalité. C'est par le Saint-Esprit que je suis sauvé. Mais tout ce que je sais de la verticalité m'a été révélé par l'horizontalité. C'est-à-dire que c'est l'Église qui m'a révélé que j'ai besoin d'une communion avec Dieu. Et quand je dis l'Église, c'est dans le sens large. C'est les Écritures, la parole de Dieu, des hommes qui ont écrit la Bible, d'autres qui ont enseigné la Bible, des imprimeurs, des gens dans les églises, des évangélistes, des amis. C'est-à-dire que tout ce que je sais de ma verticalité, qu'est-ce que je serais s'il n'y avait pas eu l'horizontalité, c'est-à-dire des gens qui me parlent et là où il y aurait une interaction. Et puis là où je rejoins un peu le message de Pasteur José, il y a des saisons, c'est qu'il y a peut-être des saisons où Dieu va plus insister sur la verticalité et des saisons où il va plus insister sur l'horizontalité, mais les deux ne s'opposent pas, il n'y en a pas un avant l'autre. Les deux sont complètement liés. Puisque à partir du moment où je suis dans ma verticalité régénérée, je suis baptisé dans le corps de Christ. Et là, c'est l'horizontalité. Donc ça s'est fait en même temps, la verticalité et l'horizontalité. Et les dons de l'Esprit qui sont autour de moi et qui m'ont été communiqués, dont j'ai profité, et qui ont peut-être aussi révélé mes propres dons. Donc horizontalité, verticalité. Et c'est valable là aussi au niveau de notre marche avec Dieu, c'est-à-dire que à la fois dans le présent je peux souffrir et en même temps je peux être joyeux dans une perspective spirituelle. Un non-croyant va dire tu es schizophrène, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible de vivre les deux. Mais nous pouvons parce que nous avons reçu la personne de Dieu en nous. Et nous ne sommes pas de ce monde dans ce monde. Et tout en étant dans ce monde, on n'est pas de ce monde. Et comment on peut vivre cette notion de ne pas être dans ce monde? C'est par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est d'accepter, si vous voulez, des fois on a l'impression qu'on ne peut être joyeux que si on n'a plus de problème. On ne peut être satisfait que si on a tout obtenu. Alors qu'en réalité, le chrétien peut être dans la disette, il peut être dans les difficultés, il peut être dans un manque d'amour même, il peut vivre le rejet, et donc il souffre, et en même temps, il est aimé de Dieu, et il est rempli d'amour. Mais ça ne veut pas dire que ça va annuler la vie terrestre. Nous allons vivre les deux. Et en tant qu'être humain, être naturel, on accepte rarement cette situation, c'est qu'on veut que Dieu éradique ce qui ne va pas, pour que nous puissions vivre une forme de plénitude. Et du coup, on est, des fois, c'est des domaines où on est endurci. On dit non, Seigneur, vous savez, c'est comme des fois, on est un petit enfant, il veut quelque chose, et vous avez beau lui offrir ou lui proposer d'autres choses qu'il aime bien, mais comme il est focalisé sur ce qu'il veut absolument, il refuse le reste. Et parfois on est comme ça avec Dieu, c'est que non, moi je veux pas me réjouir de la résurrection parce que Seigneur tu me fais trop souffrir aujourd'hui. Il y a une forme d'amertume en fait, on veut pas la consolation. Parce que pour nous la consolation c'est une solution dans ce monde. Alors que Dieu dit parfois, dans ce monde il n'y a peut-être pas de solution pour le moment, mais dans ta vie, il y a une solution, c'est l'espérance future. Et je peux te combler et te remplir avec ces promesses-là si tu t'humilies, si tu acceptes cette idée que finalement, tu n'as rien à exiger de Dieu, tu n'as qu'à recevoir ce qu'il veut bien te donner et de vivre dans l'humilité. Et c'est ainsi qu'on peut commencer à vivre une forme de double existence, c'est-à-dire que, vous savez, comment, honnêtement, qu'on soit dirigeant d'église ou membre d'église, tous les chrétiens, comment pensez-vous qu'un chrétien puisse raisonnablement garder le cap tout au long de son existence dans le monde dans lequel il est? S'il n'y a pas une consolation qui vienne d'en haut. Voilà. Ce monde n'est pas pour Dieu. Ce monde est contre Dieu. Ce monde va sans cesse nous tenter, il va attiser notre chair. La chair sera toujours là, entre parenthèses. Donc il faut accepter de pouvoir vivre ces deux choses en parallèle. Ce qui fait que je peux être triste, mais pas démoralisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une perspective qui, elle, ne se corrompt pas, qui m'attend. Et comme elle ne se corrompt pas, elle a plus de valeur. Et comme elle a plus de valeur, elle réjouit mon cœur. Même si aujourd'hui, je vis des choses qui ne sont pas encore terminées dans mon existence, qui me font souffrir, mais je sais que, in fine, parce que la vie est une vapeur, ça va disparaître. Et donc, je relis le verset, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, est-ce qu'on accepte aussi cette idée-là? Il le faut. Il le faut. Alors pourquoi il le faut? Peut-être qu'il le faut pour ma propre vie. Peut-être qu'il le faut pour que je m'humilie. Il le faut pour que je sois utilisé par Dieu en tant qu'outil entre ses mains. Il le faut pour un plan qui dépasse simplement ma propre existence. Imaginons, il y a la guerre en Ukraine aujourd'hui. Imaginons des chrétiens remplis d'esprit qui marchent avec Dieu depuis des années. Est-ce qu'ils passent au travers de la guerre que ce pays traverse? Non, il le faut. Il le faut. C'est peut-être pas à cause d'eux que ces choses-là arrivent individuellement, ils n'ont pas forcément un péché dans leur vie, mais ça s'inscrit dans une histoire, ils sont nés dans cette génération, dans un lieu géographique très particulier, et donc il le faut. Est-ce que nous acceptons ce « il le faut » ? Il fallait que Paul aille en prison. Il fallait qu'il soit rejeté dans des synagogues. Il fallait que des masses l'abandonnent. Il le fallait. Pourquoi ? Parce que c'était sous le contrôle de Dieu, même si c'était pas dans la volonté de Dieu. Il le fallait. Et est-ce que j'accepte ce « il le fallait » dans ma vie ? Et donc, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat, c'est intéressant parce que l'épreuve de ma foi, c'est comme si Pierre, là, lui donnait une valeur éternelle, semblable à l'héritage qui nous attend. Vous voyez, l'épreuve de la foi qui a plus de valeur que l'or. Alors pourquoi c'est l'or qui est utilisé? Parce qu'on le sait, l'or est considéré depuis des siècles et dans toutes les civilisations comme un métal qui se corrompt pas. C'est pour ça que ça prenait de la valeur. Et ben c'est plus précieux encore que l'or, l'épreuve de notre foi. Pourquoi? Parce que ça va être récompensé dans les cieux. Et ça, c'est un sujet de consolation aussi. Vous voyez, c'est moi, ma vie va disparaître, ma vie est périssable, mais mon obéissance n'est pas périssable. Mon obéissance va me suivre et Dieu va me récompenser. Et donc, je vais rejoindre ce qui m'attend déjà au travers des récompenses. Et donc, il le dit, l'épreuve est autrefois plus précieuse que l'or périssable et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur quand, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des bénédictions que nous pourrons recevoir que lorsque Christ apparaîtra. Mais elles arriveront, ces bénédictions. On doit en être sûr. Or, nous, on aimerait tellement que les bénédictions arrivent maintenant. Et elles arrivent parfois. Gloire à Dieu. On a une grâce particulière. Dieu sait ce dont on a besoin et Dieu nous bénit déjà durant cette existence. Mais il y a des bénédictions liées à l'épreuve et à l'obéissance de notre foi qui ne seront révélés que lorsque Christ apparaîtra. Est-ce que j'accepte cette idée? Est-ce que je veux bien attendre Noël, pour reprendre l'image de tout à l'heure? Ou alors est-ce que je veux piquer le cadeau dans l'armoire avant le jour J? Je dois laisser à Dieu la souveraineté de ma vie et aussi du cours de l'histoire. Et donc, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, et voyez comment il insiste sur la notion invisible, puisque l'avenir est invisible. On peut l'imaginer, mais il n'est pas palpable, il est invisible. Verset 8. « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Alors là, il ne s'agit pas... en français, là, la traduction est moyenne, parce qu'on a l'impression qu'on va avoir le salut de notre âme parce qu'on traverse l'épreuve de notre foi correctement. Non, là, il s'agit du fait qu'un jour, nous avons cru, donc nous avons eu la foi, et donc le prix de notre foi, c'est le salut de notre âme, mais la plénitude du salut, c'est-à-dire la résurrection. C'est comme ça que nous serons comblés. Donc vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et alors là, c'est intéressant parce qu'on parle de Dieu et de sa vision des choses, le fait qu'il nous garde en réserve, il prépare quelque chose pour nous, il conduit tout parfaitement. Mais pensons aussi aux serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Et Pierre en parle. Il dit, il change un peu de sujet parce que quelque part, nous, on n'est pas concernés. Mais pour nous montrer la valeur de ce qu'il est en train de dire, il dit, mais... Verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Donc c'est intéressant parce que nous avons un héritage qui nous est réservé et puis il y avait une grâce qui nous était réservée. Est-ce que cette grâce, elle nous a été donnée? Oui, quand on a été sauvé. Est-ce que Dieu a été fidèle de garder cette grâce pour nous? C'est-à-dire qu'il l'a révélé aux prophètes, et il a dit au travers des prophètes que viendra un temps où la grâce sera communiquée et diffusée. Et ça parle de l'Église. Est-ce que oui, elle a été bien conservée cette grâce? Alléluia, on a reçu cette grâce. D'où, tout comme nous avons reçu une grâce qui nous était réservée, nous recevrons l'héritage qui nous est réservé. Et donc là, il dit... Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous savez, qu'on soit un savant, un chercheur ou un théologien, un étudiant de la Bible, on peut imaginer Esaïe, on peut imaginer les gens autour de lui, on peut imaginer Daniel avec ses amis, on peut imaginer Osée, on peut imaginer tous ces prophètes. Et puis qui ont été inspirés, ils ont écrit, puis après, attends, on va relire ça. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce que Dieu m'a révélé? Oh, pétard, les souffrances de Christ. Enfin, ils appelaient pas ça Christ, hein, le Messie Christ, mais... Et puis, ils parlaient de la souffrance de Christ et l'héritage pour les saints, les bénédictions qu'il allait avoir. Ils faisaient des recherches, ils faisaient des comparaisons. Ils disaient, qu'est-ce que c'est que cette révélation? C'était pas pour eux. Mais pourtant, même si c'était pas pour eux, il passait du temps à rechercher, à faire des investigations, tellement c'était beau, ce message. Et nous, on est là, un peu fatigués. Je connais ce verset, je connais cet enseignement, tu vois, mais n'empêche que mes fins de mois sont difficiles. Et bien sûr, une fin de mois difficile, c'est de la souffrance, c'est dû à compassion. Mais méditez, ayez peut-être une attitude d'investigation comme le faisaient les prophètes. C'est un message glorieux que nous avons reçu. C'est pour ça, quand les gens nous disent « Mais pourquoi vous réunissez? De quoi vous parlez ?» Alors, d'un côté, on est toujours renouvelé, puis en même temps, on parle toujours de la même chose. Je veux dire, au bout de 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, je veux dire, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre, hein, ce sont les mêmes sujets. Mais ça nous réjouit, on fait des investigations là-dedans. Puis il y a un message donné, apporté par l'un qui donne une autre facette, et on se réjouit. Et on reçoit ça. Moi, de toute façon, si la parole de Dieu est comparée à la nourriture, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que la nourriture, vous pouvez savoir ce que c'est qu'une baguette ou un croissant, mais quand vous avez faim le matin, vous dites pas oh, « je sais ce que c'est hein, ». Vous avez envie de manger. C'est comme si vous en mangez la première fois, d'une certaine manière. Bah, la parole de Dieu, c'est ça, c'est notre nourriture. Et nous, on est des fois comme des croyants avec la peau sur les os, en train d'être en pleine famine, et puis on passe à côté en disant « non, ça se mange pas ». Et si, les promesses de Dieu, ça se mange. Celles qui concernent l'éternité, ça se mange aussi. C'est pas uniquement les promesses en disant « je vais répondre à ta prière dans 2 jours ». C'est aussi « tu vas voir un corps ressuscité, il y aura plus de larmes, plus de tristesse, etc., plus de péché ». Nourris-toi de ça. C'est aussi une nourriture. Et donc, ils disent, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc en fait, apparemment, d'après ce qu'il dit, la question essentielle, mais quand est-ce que ça va arriver? Tu vois, c'est extraordinaire ça. Et il y a un sous-entendu là. Ils auraient aimé en être. Ils auraient aimé en être. Quand est-ce que ça va arriver? Et ensuite, il continue, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Ça me touche énormément, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, la vie de prédicateur, d'évangéliste, de chrétien qui annonce l'évangile, de quelqu'un qui veut tenir ferme dans la vérité, c'est pas une vie toujours facile. Et pourtant Dieu choisit parmi son peuple des personnes et il les sacrifie en disant, c'est pour ça que d'ailleurs les apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs, ils ont été donnés à l'Église. D'accord? Je le redis toujours, pasteur c'est pas un don, t'as pas le don de pasteur, c'est toi en tant que pasteur qui a été donné à l'Église. C'est ça, le don de pasteur. Et là, je pensais au don de prophétie des prophètes de l'Ancien Testament, des Jérémie qui ont souffert. Je veux dire, Jérémie, il a été enfermé, assigné à résidence, il a vu la destruction de sa ville bien-aimée, il a vu la destruction du temple. On ne sait pas trop comment il est mort, mais ça a dû être dans la douleur. Et tous ces gens-là, Dieu les a appelés pour qu'ils révèlent des choses nous concernant. C'est-à-dire qu'il a... il a offert en holocauste presque des individus dans l'Ancien Testament pour que nous, nous puissions recevoir les promesses. C'est quand même quelque chose. Et pour moi, c'est un argument supplémentaire de l'amour de Dieu pour moi. Parce que ces gens-là étaient spirituels. Dieu les aimait, Dieu aime, non pas à cause de ce qu'on fait, mais grâce à Christ, mais en même temps, il veut bénir et il se réjouit de voir un Daniel marcher avec Dieu, de voir un Jérémie, de voir un Ésaïe. Et pourtant, il a utilisé ces hommes extraordinaires pour qu'ils soient utilisés à communiquer la révélation qui nous était confiée, alors qu'eux n'en ont pas profité. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire le plan de Dieu, passé, présent et futur. Et donc, c'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Les anges désirent plonger leur regard. Vous savez, les anges, on ne sait pas beaucoup de choses sur les anges. La Bible n'est pas la biographie des anges, ça ne nous dit pas tout ce qui se passe pour les anges. Mais on a quelques indications. Ils sont dans la présence de Dieu. Selon Job, ils chantaient des cris de joie quand l'univers a été créé, donc ils existaient avant. Ils ont vu la conspiration de Lucifer et qui a entraîné un tiers des anges. Ils sont puissants. Ils arrivent pour eux annoncer à Marie quelque chose ou à Joseph ou au berger, c'est quelque chose de facile. Enfin, c'est des anges, quoi. Ils sont puissants. Il y a les chérubins qui gardent la sainteté de Dieu. Pour l'instant, ils sont au-dessus de nous. Hein. David dit dans un psaume, nous avons été créés de peu inférieurs aux anges. Donc, ils sont supérieurs à nous. Et en même temps, ils entendent le mot grâce, l'évangile. Et là, il y a quelque chose là. On veut regarder. Tout comme les chérubins regardaient le sang, eux regardent à l'évangile. Quel est notre regard sur l'évangile? Comment on regarde l'évangile? Le salut dans toute sa plénitude. Et tout ça, c'est... Et je vais m'arrêter là pour ce soir. C'est que là où l'eschatologie est pertinente dans notre vie, c'est que parfois, il y a qu'elle qui peut nous donner la force de continuer. Parfois, vous n'aurez rien dans ce monde qui vous donnera la force de continuer. Alors, ça peut être une eschatologie personnelle pour les autres, c'est-à-dire que vous continuez d'évangéliser parce que vous souhaitez qu'ils aillent un jour au paradis et pas en enfer. C'est une perspective future aussi. C'est ça qui vous permet d'avancer. Parfois, c'est dans notre vie personnelle, alors qu'on a des hauts, des bas, on peut être découragé. On vit des épreuves, on est triste, on a nos travers, nos luttes, et il n'y a rien, même quand je dis dans l'église présente, dans ce monde, des fois on peut se dire, moi, une conférence de plus, je m'en fiche, lire ma Bible, ça me fatigue, je reçois rien, je suis fatigué. Et des fois, il n'y a que l'espérance en disant, mais attends, ça va passer ça, qu'est-ce qui m'attend après? Réfléchissons un petit peu, réjouissons-nous un petit peu avec Dieu de cette perspective. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, mais cette grâce qui m'a été donnée, elle va pas s'arrêter là, elle va continuer d'opérer dans ma vie, dans l'éternité. Et j'en parlerai dans un autre soir, mais juste imaginons être dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, et puis on se promène dans ces planètes, je sais pas, dans ces nouveaux territoires, dans cette nature nouvelle. Et puis, il n'y aura pas la mort. Il n'y aura pas le péché. Quelqu'un viendra me parler, il ne sera pas hypocrite. Il ne sera pas en train de me mentir. Tout sera parfait. Ça me repose déjà. Ça me repose. Ça me fait des vacances. Le monde, c'est pas toujours des vacances. Cette vie n'est pas toujours facile à vivre. Mais on a des promesses extraordinaires. Donc, souffrance, à tristesse, ça n'empêche pas d'avoir la joie. La seule chose, c'est que c'est pas l'annulation parfois de la tristesse qui va produire la joie. Ce sera la tristesse plus la joie. Comment ? Par le présent plus l'avenir. et les deux vont ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci.